Beauté, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Alliance Plus. Vous êtes donc dans l'émission Dans nos communautés avec Christiane Hervault au micro et aujourd'hui je reçois Sylvie Franchet d'Espéré. Bonjour Sylvie.
Bonjour Christiane.
Voilà Sylvie, je vous reçois parce que vous avez été présidente pendant de nombreuses années, depuis 2020 exactement, jusqu'à hier, date de l'AG, de votre dernière AG. Et nous allons faire un retour un peu sur ce vécu de cette présidence et puis de vous, de ce que vous y avez appris, vécu, ce qui était important, etc. Mais avant cela, donc, il y a eu deux événements importants ce week-end dernier. Les assises de l'Église protestante unie de toute la région, donc samedi dernier, de 9h30 à 17h, où 300 personnes se sont réunies pour réfléchir sur l'avenir et l'ouverture, les possibilités de notre Église dans cette région. Et puis, dimanche matin, c'était l'Assemblée générale de l'Église protestante de Nîmes. Alors, tout d'abord, eh bien, peut-être on va commencer par ces assises qui sont un peu particulières, qui n'ont jamais existé, je pense, du temps de tout votre vécu de présidente.
Tout à fait, c'est la première chose justement que je voulais dire, c'est que c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas comme un synode qui est statutaire pour notre Église et qui a lieu dans la région chaque année et où se retrouvent les délégués synodaux choisis dans les paroisses, désignés par les conseils presbytéraux. Là, c'était beaucoup plus ouvert et beaucoup plus libre. Il y avait de simples paroissiens, pas forcément des conseillers ni des délégués. Et le sujet était unique et très général. Comment repenser notre Église en Cévennes, Languedoc, Roussillon pour que sa vie soit plus dynamique, disons. Et il y avait à l'arrière-plan aussi, bien sûr, autre chose, c'est que les difficultés financières existent un peu partout et que ces assises doivent préparer un synode exceptionnel, de nouveau, en mai, pour parler finances. Et voilà, ces assises, moi, je les ai trouvées passionnantes. En fait, je disais que c'était plus libre et du coup, il y a eu aussi une nouvelle méthode qui consistait à faire presque uniquement des travaux de groupe et avec énormément de groupes, il y en avait 32, des thèmes répartis par des ensembles de groupes, puis passage d'un groupe à l'autre pour faire part de ce qu'on avait trouvé. Enfin, la méthode était excellente, mais bon, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le fond.
Donc, elle reliait, dans la méthode, c'était relié entre une réflexion et une pratique aussi.
Voilà, tout à fait. Et je dirais en fait brièvement ce qui en est sorti, ce qui est apparu à l'intérieur des groupes, c'est deux tensions, je dirais. Une tension entre les églises disséminées, par exemple, dans les vallées cévenoles, mais pas uniquement, et les églises de plus grandes villes, voire de pôles, comme à Montpellier ou à Nîmes. Ça, c'est la première tension. Et en échangeant dans ces groupes, en fait, on s'apercevait que, bien sûr, c'est différent, c'est très différent, le vécu, mais que les questions auxquelles on fait face sont à peu près les mêmes. C'est les questions du renouvellement des personnes engagées et le fait que, un peu partout, aller à l'Église, faire partie de l'Église, n'est plus une évidence. Même quand on est tombé dedans, quand on était tout petit. Et ça, on le retrouve partout. La différence, c'est la démographie. Il y a des zones qui sont, du point de vue démographique, très vivantes, où arrivent des familles avec des enfants. Grosso modo, je dis bien grosso modo, c'est plutôt dans la plaine. Les villages le long de la côte entre Nîmes et Montpellier, même un peu au-delà, jusque vers Béziers. Ce qui se dépeuple, c'est bon, d'une part la montagne et d'autre part un peu les centres-villes par rapport justement aux abords de villages qui sont proches. Donc bah, il faut s'adapter, hein. Il faut s'adapter, on n'est pas coupable de tout, il ne faut pas se dire oh, mon Dieu, on est nul, on n'y arrive pas. Ben non, quand la démographie, quand la vitalité économique n'est pas là, eh ben, on doit faire pour ceux qui sont là. Et d'abord, et essayer de proposer d'autres choses éventuellement pour attirer. Donc voilà, à la fois des mêmes problématiques et des situations différentes. Ça, c'est ma première tension.
Oui.
Et la deuxième, en fait, c'est, elle rejoint un peu la réflexion de l'Église sur les ministères. C'est-à-dire qu'on est toujours invité à imaginer une Église qu'on appelle parfois, bon, d'un nom excessif, mais qui parle bien, liquide. L'Église liquide, c'est-à-dire qui suit, par exemple, les réseaux sociaux ou l'Internet d'une façon générale, ou bien qui propose des rencontres de temps en temps dans des endroits différents. Pas très structuré. Hein, pas très structuré. Et d'autre part, ben notre système presbytérien synodal, hein, qui est celui que nous impose la loi et auquel en plus on est très attaché, enfin, ce que nous impose la loi, ce sont les associations cultuelles avec leur conseil presbytéral. Le niveau synodal, c'est plus l'Église. Et ce système, ben, il est carré, hein, on ne peut pas être liquide là. Hein. Donc, voilà, c'est le défi, faire aller les deux ensemble. Avec deux choses auxquelles il faut prendre garde. D'abord, de savoir si c'est les mêmes personnes qui seront dans les deux, parce que si c'est les mêmes qui sont dans les deux, comme il arrive parfois, ben, elles vont mourir à la tâche. Il faut aussi, si on crée du nouveau, si on crée des églises liquides, il faut que ce soit avec des personnes nouvelles. Et puis, deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est le système presbytérien synodal, c'est vraiment celui de notre Église depuis la Réforme, mais il ne faut pas non plus le sacraliser. Rien n'est sacré chez nous, ça, c'est connu. On est obligé de faire un certain nombre de choses, mais on peut aussi, tout en le gardant peut-être, adapter pour que ce soit moins dur, moins contraignant. Voilà. Et pour le fond, on a beaucoup réfléchi aussi dans les groupes, au fond, sur la question du message chrétien, quoi. Est-ce que le message qu'on fait passer est encore pertinent ? Nos enfants n'ont plus l'air, n'ont pas dit de pas, c'est pas qu'ils n'y croient pas, mais ça les intéresse plus, parfois. Pas toujours. Hein. Donc, c'est quand même une question. Donc, on a pas mal réfléchi aussi à ça. Peut-être que le... Alors ça, c'est une idée personnelle, mais bon, après tout, puisque je suis là...
Oui, bien sûr.
C'est allez-y. Que l'angoisse existentielle, qui était vraiment purement personnelle depuis le Moyen-Âge et à laquelle Luther a répondu en disant, c'est la grâce. Voilà. Vous avez peur d'aller en enfer, à l'époque c'était ça, hein. Ne vous en faites pas. Dieu nous a déjà pardonné en Jésus-Christ. C'est pour ça que le Christ est venu. Et donc, ça permettait à l'âme de se reposer et de se sentir libre d'œuvrer pour Dieu. Donc, cette dimension de la grâce individuelle, elle ne répond plus peut-être aux angoisses de la jeunesse et de beaucoup de personnes aujourd'hui, qui est plutôt une angoisse écologique, c'est-à-dire une angoisse pour l'avenir de la Terre, et donc de tous les humains. Et il y a sûrement un travail théologique à faire là-dessus. Comment répondre d'une manière nouvelle, toujours avec le Christ, parce que le Christ, c'est quand même notre... c'est notre vie. Hein. Christ est ma vie, disait Paul. Comment y répondre d'une autre manière ?
Mais comment rejoindre nos contemporains dans tout ce qui est du vécu que nous vivons aussi, nous,
tout à fait.
En tant que tel.
Mais hein, là, c'est vraiment de creuser théologiquement la question qui me paraît bien. Et puis un dernier point sur lequel tout le monde s'est un peu accordé après avoir discuté, c'est qu'il faut une colonne vertébrale. Hein. On ne peut pas poursuivre l'air du temps, être dans du liquide, voire dans du gazeux, voilà, remplacer prédication par méditation, remplacer religion par spiritualité, toujours remplacer principe par valeur, c'est-à-dire employer des mots qui sont des mots un peu... inconsistants et dans l'air du temps. Oui. Alors, ils ont un sens, hein, ces mots, c'est pas ce que je veux dire, mais... Il faut aussi une vraie colonne vertébrale. Voilà.
D'accord. Donc, se tenir dans le centre, bien centré.
Voilà, tout à fait.
Très bien. Donc, ça, c'était votre réflexion et quelques éléments au sujet de ces assises, très passionnantes, effectivement, et où beaucoup de monde nous a rejoints. 300 personnes, c'est pas rien de bouger tout ce monde en Cévennes, Languedoc-Roussillon. Et c'était donc très... Très bien, très parlant pour ça, hein, que les gens se sont sentis concernés. Et au sujet de l'AG, de l'Assemblée Générale de l'Église protestante de Nîmes, donc qui a eu lieu hier, quel a été un peu votre sentiment et vos...
Ah bah, c'était une AG très particulière pour moi, puisqu'on y élisait le nouveau conseil presbytéral, donc une partie des conseillers se retirait. De nouveaux conseillers arrivés. Parmi ceux qui se retiraient, ben, il y avait moi-même, donc, qui, après 5 ans de conseil et 4 ans de présidence, voilà, j'avais estimé que j'avais bien travaillé et que j'allais toujours travailler dans l'Église, mais autrement. Et puis, voilà, j'ai un successeur qui a été élu dans la foulée de l'AG, qui est Alain Clavel. Et tout un nouveau conseil, ça va repartir. Alors l'AG elle-même, justement, faisait place un peu à tout, aux deux, c'est-à-dire à tout ce qui s'était fait. Moi, c'est un peu ce que j'ai présenté dans mon rapport moral. Et puis en ouvrant sur les nouveaux et sur ce qui peut se faire, ce qui peut aussi, dans ce qu'on a fait ces années, servir de modèle et puis des nouveaux projets. Parce que voilà, c'est parti, ça continue.
Voilà. Est-ce qu'on peut en dire un ou deux projets, peut-être, rapidement, pour ne pas être trop long
sur... Alors, dans les...
Mais ça va être en cours, c'est en cours, en fait.
Oui. Bah, en fait, il y a toujours le projet Petit Temple qui dure depuis longtemps, mais c'est simplement parce que la partie bâtiment a été très, très longue. Il fallait le travail des architectes, le travail de la commission de sécurité, le travail de la DRAC pour donner son agrément et le permis de construire ensuite. Bon, bah, c'est extrêmement long.
C'est énorme, oui.
Alors là, on a le permis de construire, on a l'agrément de la DRAC, donc on va avancer pour faire des travaux, pour que ce temple soit vraiment d'abord en bon état et beau, et surtout adapté au point de vue sono, hein, acoustique, et au point de vue, il y aura aussi une possibilité de projection vidéo, discrète, mais il y en aura une, pour que ce lieu soit à la fois un beau lieu de culte, puis il y aura un chauffage, par le sol. Un beau lieu de culte, confortable, moderne, et une salle, où on pourra faire des conférences avec des PowerPoint, avec des tables rondes aussi, d'autres personnes. Et puis dans les alvéoles sur les côtés aussi, on mettra, mais ça sera peut-être dans un deuxième temps, des écrans pour pouvoir mettre soit des informations sur ce qui se passe, soit des informations historiques. Voilà. Donc, il y a un projet avec les travaux. Ça, c'est de longue haleine. On a déjà obtenu des subventions. On a déjà une bonne partie de l'argent. Mais bon, il faudra en trouver d'autres. Ça avance. Sinon, il y a un autre projet qui est en gestation, qui vient d'éclore. Hein, c'est la pasteur Claire Desménard qui en a eu l'idée et qui a travaillé avec des professeurs de l'Institut protestant de théologie de Montpellier de faire des cours du soir de théologie. Voilà. Mais ce n'est pas encore établi. Il y a des professeurs qui sont tout à fait partants. Le lieu de la MDP maintenant, qui aussi il a été arrangé avec une meilleure sono, une meilleure vidéo, serait le point d'ancrage. Bon, affaire à suivre parce que ce sera très sérieux, ce sera vraiment des cours auxquels on s'inscrira. Ce n'est pas un groupe, on n'y va pas. Hein. C'est vraiment des cours avec une inscription. On trouvera des moments qui conviennent. Je disais que c'est très sérieux, mais l'idée donc de ces professeurs et notre idée à nous aussi, Église, c'est que ce soit accessible à tous. Ce n'est pas un cours pour les étudiants de théologie qui ont déjà un certain niveau. Ce serait vraiment pour faire toucher du doigt les grandes questions de la théologie.
Très bien, merci pour ces précisions au sujet de l'Assise et de l'Assemblée Générale. Je vous propose un petit moment de musique, de pause musicale. Et vous avez choisi l'Adagio d'Handel. Alors, nous allons l'écouter, puis nous revenons juste après ensemble pour la suite de notre émission. Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus, vous écoutez dans nos communautés avec Christian Hervault et Sylvie Franchet d'Espéré, qui a été notre présidente, j'ose dire notre, puisque je fais partie de l'Église protestante unie de Nîmes, et qui a fini son temps de présidence. Alors Sylvie, peut-être est-ce que vous pouvez nous dire, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose au sujet de l'AG ou des Assises, sinon... Volontiers.
Non, je veux dire quand même, oui, que c'était une AG joyeuse.
Oui.
Voilà. Et que la transition s'est faite de manière très naturelle.
Oui.
Voilà.
Voilà. Et il y a de belles nouvelles personnes qui se sont engagées. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles personnes ou des personnes qu'on a connues, mais qui s'engagent à nouveau. Alors, concernant peut-être votre temps de présidence, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier lieu, qu'est-ce qui a été important pour vous?
Oui, alors quand je suis arrivée, j'étais quand même impressionnée hein, parce que Nîmes, c'est un gros paquebot à piloter hein, parce que j'avais déjà été présidente d'une association culturelle à Paris, à Batignolles. Alors là, c'était simple, il y avait une association culturelle avec un conseil, un pasteur, un temple. Voilà, situation, je dirais, confortable. À Nîmes, il y a une association culturelle pour tout un consistoire, c'est-à-dire un conseil presbytéral pour trois paroisses ou secteurs, deux aumôneries, une maison du protestantisme, sans compter le cimetière. Et... quatre postes pastoraux, dont trois sont pourvus, mais le quatrième ne l'est pas pour l'instant. Trois aumôniers, et puis aussi des salariés. Enfin, c'est. Voilà. C'était impressionnant. En plus, bon, j'étais arrivée à Nîmes depuis peu, même si c'était la ville de ma mère au départ, mais je n'y avais jamais habité. Donc, ça m'a aussi fait découvrir les personnes. Parce que. Une église, c'est d'abord ça. Ce sont des personnes. Bien sûr, il y a des structures, mais il faut toujours que les personnes passent avant les structures. De même que la vie des paroisses passe avant toutes les questions administratives. Bon, ceci dit, les questions administratives, il faut bien y répondre, hein, il faut bien faire, j'allais dire, faire le boulot, quoi. Gérer une association cultuelle, c'est assez contraignant sur le plan juridique, sur le plan financier. Alors, les finances, ce n'était pas moi qui m'en occupais directement, heureusement, mais il y avait un trésorier, Peter Stafford, très, très compétent. Donc, il y a vraiment des obligations un peu lourdes, mais c'est quand même les personnes qui l'emportent. Et les personnes, c'est la vie. Voilà. L'Église, c'est d'abord la vie qui est portée par les personnes et qui est aussi portée dans les paroisses par tout ce qui s'y passe, quoi. Tout ce qui s'y passe et franchement, à Nîmes, on est gâté, hein, parce que voilà, il y a la maison du protestantisme qui est pour tout Nîmes, parce que justement à Nîmes, vous avez aussi cette tension, je dirais, mais tension au sens positif, entre chaque lieu d'église, paroisse, aumônerie, hôpital, maison de retraite, maison du protestantisme, etc. Et ce qu'on appelle le tout Nîmes, où il faut trouver une dynamique où tout ça marche ensemble.
Oui.
Donc il y a deux dynamiques, des dynamiques locales et une dynamique commune. Et ça, c'était vraiment le rôle du conseil presbytéral de porter ça, pour que déjà il n'y ait pas de concurrence entre les divers lieux et pour que chacun puisse offrir à tous quelque chose et que le tout Nîmes aussi se rassemble de temps en temps. Alors moi, je garde de très beaux souvenirs des cultes communs, justement, que ce soit culte des aumôneries, culte de l'Église universelle, même culte de la cité, culte avec l'APA, l'Association protestante d'assistance. Tout ça, ces cultes-là sont particulièrement forts.
Oui, c'est important de pouvoir vraiment se réunir, de sentir
voilà.
qu'on
n'est
pas
monde.
Chacun dans son coin, voilà. dans sa paroisse, mais on fait partie d'un tout,
tout à fait.
Justement.
Tout à fait. Et on avait aussi organisé deux fois sur quatre ans une journée des conseillers, c'est-à-dire une journée où les conseillers, non seulement presbytéraux, mais aussi des paroisses ou de l'aumônerie, de la MDP, se rassemblaient pour d'abord pour se connaître, parce que ça fait beaucoup de monde tout ça, hein. Donc on ne se connaît pas forcément, et puis pour réfléchir à ce qu'ils ont en commun, quoi, ce qui les unit à Nîmes. Dans leur vocation de chrétiens au service de l'Église. Voilà, il y avait des...
Alors, pour vous, comment ça se termine, du coup ? Quel serait le mot de la fin ? Parce que notre émission arrive bientôt à la fin, donc qu'est-ce qui... Bon, vous avez été très apprécié, vous êtes très applaudi hier.
Ça fait plaisir.
Et donc, voilà, vous avez porté beaucoup de choses, et puis avec les autres, hein, bien sûr, pas toute seule. Mais bon, c'était, comme vous dites, un sacré travail. Et donc, ça se termine. Et donc,
D'abord, je continue. Hein, je suis engagée au CNEC, dans l'écuménisme. J'y tiens beaucoup avec l'OTPN pour les orgues. Le projet Petit Temple, je vais continuer à le suivre. Les cours du soir, là, la nouvelle, on l'appellera peut-être Université écuménique de Nîmes. Voilà, ça m'intéresse aussi. Et puis... si je devais dire un mot pour finir, ben au fond, je reprendrai celui que j'ai dit hier à l'Assemblée Générale. Mon mot de conclusion, c'était aimer l'Église. Voilà, aimer l'Église et au-delà, l'Église de Nîmes et au-delà, hein, l'Église en général. Aimer les pasteurs, les aumôniers, aimer les personnes engagées, aimer les frères et les sœurs qui nous sont donnés et même aimer les lieux qui nous sont donnés et en prendre soin. Oui, aimer l'Église, pour moi, c'est à la fois une invitation, une conviction et un mot d'ordre.
Et un bonheur.
Et un bonheur, oui, c'est vrai.
Voilà, merci beaucoup Sylvie Franchet d'espérer. C'est toujours un peu court pour faire le tour de tout, mais nous avons eu plaisir à vous recevoir ici à Radio Alliance Plus. Vous êtes venu aussi souvent pour animer des cultes et vous nous avez soutenu aussi.
Je vais continuer ça. Ça, je vais continuer aussi les cultes.
Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous et bonne suite. Bonne suite. On vous reverra.
Merci, Christiane.
Un peu partout, ça, c'est sûr.
Merci, Christiane.
Merci. Au revoir.